J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai la joie et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas de Bible, levez la main, on va vous prêter une Bible. Il y a des Bibles disponibles, n'hésitez pas. Alors, il y a une main qui est levée de l'autre côté, une autre à gauche. Donc voilà, je vous laisse le temps de chercher. Donc ce matin, je vous propose de lire le psaume 111. Pendant qu'on distribue la Bible, vous pouvez déjà trouver la page du psaume 111. Le psaume 111. Le psaume 111. Je vais vous afficher le texte. Le psaume 111, son auteur n'est pas connu. Mais selon les commentateurs de la Bible, les psaumes 111 et les psaumes 112 sont appelés des psaumes jumeaux. Parce qu'en fait, les deux psaumes mettent l'accent sur la crainte de l'Éternel. Et la différence entre les deux psaumes, c'est que le psaume 111 se focalise sur Dieu et le psaume 112, c'est sur le peuple de Dieu. Et je vous encourage, vous, de lire le psaume 112 pour faire le lien avec le texte de ce matin. Donc, le psaume 111, il y a 10 versets. Et moi, je vais lire dans la version Louis II. Faisons la lecture. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son alliance. Il y a des petites nuances par rapport à ma version. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit. Toutes ces ordonnances sont dignes de foi, à toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Il a envoyé la libération à son peuple, il a promulgué pour toujours son alliance, le verset 9 toujours, son nom est saint et redoutable. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens. Tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. Et dans la version qui est affichée à l'écran, le verset que je vous propose de développer, c'est le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et de ce verset, j'ai tiré le titre suivant. La crainte de Dieu dans la vie chrétienne. Et voici le plan que je vous propose. Dans un premier temps, nous verrons ce que c'est que, c'est quoi la crainte de Dieu, pourquoi avoir la crainte de Dieu, et c'est quoi les bienfaits ou encore les bénédictions de la crainte de Dieu. Et enfin, nous verrons, côté pratique, comment vivre dans la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, on pense souvent à ça. Parfois, on pense que quand on parle de la crainte de Dieu, c'est une image négative de Dieu, qui inspire la peur, la terreur. Une image d'un Dieu tout-puissant qui est prêt à nous foudroyer au moindre écart de comportement. Mais est-ce que c'est vraiment ça la crainte de Dieu? Peut-être que c'est ça. Peut-être que la crainte de Dieu, c'est une disposition du cœur, une qualité spirituelle qui doit habiter le cœur du chrétien. C'est une attitude, la marque d'un profond respect à l'égard de Dieu, qui est trois fois saint. C'est aussi un profond respect pour sa parole qui nous révèle qui est Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ce profond respect que nous avons pour Dieu qui est trois fois saint et ce respect pour sa parole qui nous fait connaître qui il est et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, pourquoi avoir la crainte de Dieu? Le verset 10 nous le rappelle, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Craindre Dieu, c'est aussi une attitude de soumission à sa volonté. Et c'est le point de départ, le commencement de la sagesse au sens biblique. Et cette sagesse nous permet de nous aligner à la volonté de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et comme nous l'avons vu en introduction, la crainte de Dieu est perçue au sens du profond respect que nous avons à l'égard de ce Dieu saint. Le problème, c'est que nous vivons dans une société du XXe siècle où la notion de respect, respect des valeurs, respect des principes, respect des autorités, respect des biens communs du public, se perd. Rien qu'en voir à la télé tout ce qui se passe avec les faits divers, parfois on s'interroge. Et malheureusement, cette attitude se transpose même dans nos églises. C'est triste de constater cette réalité. On vit dans le compromis, on banalise tout, alors que la parole de Dieu devoir avoir autorité dans nos vies. Mais on n'a plus la crainte de Dieu. Rien qu'en voir les faits divers même dans nos églises. Des querelles, des jalousies, des comparaisons. Et parfois même l'infidélité entre frères et sœurs dans les églises. Et parfois l'ego, parfois démesuré de celui qui est devant la chair, qui va être le centre de tout, oubliant que nous sommes que des simples serviteurs en fait. Et ça c'est l'église. Le constat parfois de l'Église. Et parfois, moi, on arrive à tomber dans le piège de raisonner comme si, dans l'Ancien Testament, Dieu était plus sévère. Il y avait plus de crainte dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Que dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, on est dans la Nouvelle Alliance, on est sous la grâce, comme on aime le dire. Tout est cool, quoi. On banalise tout. On n'a plus la crainte de Dieu. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Détrompons-nous, frères et sœurs. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, Jésus a pardonné les péchés. Il est vrai, dans le cas particulier, par exemple, de la prostituée, lorsqu'il a pardonné la prostituée, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il y a un avant et un après la rencontre avec Jésus. Et si on ne vit pas comme dans cette nouveauté de vie, il y a un problème sur la sincérité de notre conversion. Je suis pas en train de dire, lorsqu'on est converti, on devient parfait, on pêche, puis non. Je suis en train de dire que lorsqu'on accepte Christ dans notre Seigneur, on a ce désir de vivre en nouveauté de vie. C'est difficile, on plie les genoux, on prie, on demande l'aide du Seigneur pour nous aider à vivre en nouveauté de vie. Il y a un avant et un après. On reconnaît un arbre par ses fruits. Je suis désolé de dire, mais c'est la vérité. Et nous devons aspirer à cela. C'est vrai que Jésus a pardonné les péchés. Le même Jésus reviendra dans sa gloire pour juger le monde. C'est Apocalypse qui le dit. Apocalypse 19, verset 11 nous dit quoi ? Puis je vis, donc c'est Jean qui parle, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Mes amis, ne nous trompons pas. S'il y a une vérité biblique qu'on doit se rappeler, c'est celle-ci. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, notre Seigneur n'a pas changé. Le Dieu des miracles de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de changement. Et nous sommes les champions de faire des raccourcis pour justifier parfois notre manque de crainte de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Et même dans le Nouveau Testament, la notion de la crainte de Dieu apparaît. Rappelons-nous du récit Ananias et Saphira, qui est frappant. Ils vont mourir pour avoir menti. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce texte pour la première fois, mais j'avoue que j'étais percuté, j'étais interpellé. Je dis, waouh, par un mensonge, tu meurs, quoi. Mais on serait tous morts, en fait. Bah oui. Mais oui. La crainte de Dieu existait dans le Nouveau Testament, mes amis. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais je précise que ce qui est arrivé à Ananias et Saphira était arrivé dans un contexte précis. C'est un cas particulier qu'on ne peut pas généraliser. Mais ce qui est important, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de ce récit. c'est que mais Dieu, on l'a chanté, il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il nous accorde sa grâce, il est patient à notre égard, mais on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu dans notre vie. Et on a besoin de se repentir régulièrement et d'être honnête et sincère, intègre. Et ma question est celle-ci. Est-ce que tu vis au quotidien dans la crainte de Dieu? Marches-tu dans la crainte de Dieu? Ou est-ce que tu vis comme tout le monde, même si cela déshonore Dieu? À chacun de répondre à cette question. Après tous ces éléments, la question principale, c'était pourquoi avoir la crainte de Dieu? Je vous propose deux réponses. Il y en a peut-être plusieurs, mais je vous propose deux réponses. La première raison, nous marchons par la crainte de Dieu, par amour de Jésus-Christ. Nous avons tous pris la Sainte Cène pour se rappeler du prix et du sacrifice que Christ a payé pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu. Ne méprisons pas l'œuvre de Christ à la croix. Conduisons-nous avec crainte. La deuxième raison, c'est par respect à l'égard de Dieu, en nous détournant du mal et en faisant le bien autour de nous. Voici ce que Proverbe 16 nous dit, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La bonne question, c'est celle-ci. Qu'en est-il de nos vies? Dans la vraie life, comment on vit ça? C'est la question. Je n'accuse personne, parce que nous luttons tous contre le péché. Moi qui vous parle, je suis un simple pécheur acheté. Mais parfois, il arrive qu'on constate, et parfois on le regrette, de constater que certaines personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur continuent de vivre dans le péché. Certains péchés ne peuvent pas s'arrêter tant qu'on ne vit pas dans la crainte de Dieu. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu, lorsqu'on plie les genoux, le Saint-Esprit nous aide à fuir le péché, à résister à la tentation et parfois à s'abstenir. On ne peut pas y arriver par nos propres forces, mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu te détournes du mal, du péché, seulement quand, j'ai mis trois points sur ça exprès, est-ce que tu te détournes du mal et du péché seulement quand ta femme est là et te voit? Ou est-ce que quand un pasteur est là et te voit? Ou un frère et soeur te voit? Ou, je ne sais pas, tes collègues, tes voisins te voient? Ah là, ils vont me voir, tu te détournes du mal. Est-ce que quand tu es tout seul, tu te détournes du mal? Est-ce que tu as conscience que Dieu te voit même quand tu es tout seul? Et pour aller un peu plus loin, on peut, dans certaines situations, c'est dire que la crainte de Dieu dépasse le seul respect et débouche sur l'amour que j'ai pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis dans la crainte de Dieu, non pas seulement parce que j'ai peur de la sanction ou du jugement, mais par amour de Dieu, je ne vais pas faire ce qui n'honore pas Dieu. Je vais prendre un exemple. Imaginez, dans ma situation actuelle, je suis marié avec ma femme, et je dis, si, je tiens le raisonnement suivant, que je ne vais pas tromper ma femme avec une autre femme, sinon si elle m'attrape, c'est le divorce, avec toutes les conséquences. Là, je suis en mode peur de sanctions et de jugement. Mais le risque avec ce raisonnement, c'est quoi? Le jour que ma femme ne sera pas là, elle ne sera pas. Je peux la tromper. Vous voyez le vice du raisonnement. Comme personne ne me voit faire un péché, je peux le faire, mais je n'ai pas la crainte. Le problème, c'est que tu fuis la réaction de ta femme, mais tu déshonores Dieu. Dieu te voit. Parfois, on se dit, oui, ça reste entre nous. Mais non, mais Dieu te voit. Ça ne reste pas entre toi et la personne. Ta femme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Par contre, si je fais le raisonnement inverse, je raisonne maintenant par amour. J'aime tellement ma femme que non, je ne vais pas la tromper avec une autre femme. Je lui reste fidèle. Là, je suis plus en mode peur de la sanction du jugement. Je vous laisse imaginer les conséquences du divorce sur les enfants et autres. Mais là, par amour, je m'abstiens, je me retiens de faire ce qui va détruire ma relation avec ma femme Et je ne vais pas déduire, pardon, je ne vais pas détruire aussi mon engagement et je ne vais pas déshonorer Dieu. Et là, dans les deux situations, on voit que le respect et l'amour peuvent vivre ensemble, peuvent aller ensemble. Alors, poursuivons notre message. La crainte de l'Éternel n'est pas une option, mais c'est une exigence permanente qui doit animer notre cœur. Et on doit avoir cette crainte au quotidien. Et nous avons Jésus à payer le prix. Et lorsque nous tombons, nous revenons à la croix et demandons pardon, nous avons le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Ayons ça à l'esprit. Sensé, insensé. Lorsqu'on vit dans la crainte de Dieu, Dieu est honoré. Et c'est ce que la Bible appelle être sensé. À l'inverse, ne pas craindre Dieu, c'est ce qu'on appelle être insensé. Et être insensé, ça veut dire que c'est vouloir mépriser Dieu, vouloir vivre comme si Dieu n'existait pas, vouloir vivre sa propre vie. Et il y a des conséquences. Dans cette attitude, on a un cœur endurci, on a du mal à se remettre en question, parce qu'on se croit qu'on est parfait, on n'a rien à attendre des autres. Et on est endurci, et on vit comme si Dieu ne me voyait pas. Passons à notre point sur le Proverbe 1, verset 7, pardon, je voulais vous partager aussi, nous dit ceci, la crainte de l'Éternel au commencement de la science, d'autres versions, vous avez la sagesse, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Parce qu'ils pensent qu'ils sont parfaits, ils n'ont rien à attendre les uns et les autres. Même s'ils sont dans l'erreur, tu dis, mon frère, mais là, non, c'est bon. On devient endurci, on a du mal à se remettre en question, parce qu'on pense qu'on est parfait. Passons à notre troisième point, les bienfaits de la bénédiction de l'Éternel. Je vous propose trois premières sources, bienfaits de la crainte de l'Éternel. Elle nous apporte une source, elle est source de vie. Proverbe 14, verset 27 nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dieu est la source de la vie. Et nous savons que le péché, le mal nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, Florian le rappelait tout à l'heure, c'est? Mais la grâce de Dieu, c'est? La crainte de Dieu nous apporte ça. Deuxième bénédiction qu'on peut recevoir lorsqu'on vit dans la crainte de Dieu, elle assure la protection. Proverbe 34, verset 8 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Nous avons chanté, Christ est le fondement, Christ est notre rocher. Lorsqu'on a cette confiance en Dieu, on peut dormir en paix. Parce que même lorsque nous dormons, Dieu, l'Éternel ne sommeille pas, ne dort pas. Il veille sur nous. Troisième bénédiction, elle nous permet de vivre une relation de confiance avec Dieu. Le psaume 25, verset 12, nous dit quoi? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Voilà la relation qu'on a. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance lui donne instruction. Comment vivre dans la crainte de Dieu? Ça, c'est le côté pratique. Nous avons vu que la crainte de Dieu, c'est une disposition du cœur, c'est tout se passe dans le cœur. Je suis conscient que ce n'est pas simple, mais nous sommes encouragés à avoir cette attitude de crainte de Dieu. Voilà ce que nous dit 1 Pierre 1, verset 17, c'est la version 51. Et si comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme. Il n'y a pas de favori avec Dieu. Dieu nous traite de la même façon. Conduisez-vous comment? Avec une crainte respectueuse. À quel moment? Pendant le temps de votre séjour sur cette terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté, et la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. Qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ce verset 19 nous rappelle ce qu'on a vu précédemment. On vit dans la crainte de Dieu pour ne pas mépriser l'œuvre de Christ à la croix. Comment faire? Ça, c'est le côté pratique. Ben, reviens aux fondamentaux. Hein. La base, tu lis ta Bible. Parce que quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Dieu t'interpelle dans sa parole. Deuxième chose à faire, prends le temps de prier. Ça, on a du mal. Hein. On a tendance à agir à chaud. Mais le problème, c'est que parfois, on dérape. Parfois, on agit comme des insensés. Et j'aime bien cet échange que j'ai eu avec un frère, que je ne vais pas citer le nom, qui me disait, dans certaines situations, je préfère n'y pas répondre. Je préfère rentrer à la maison, prier d'abord, et après, je prendrai le temps de venir répondre. Parce qu'à fleur de peau, parfois, à chaud, on est maladroit. On n'est pas là pour encourager ou édifier, mais par nos paroles, on peut faire mal. On peut détruire l'autre. Parce qu'on croit toujours, c'est toujours la faute de l'autre. Hein. Moi, j'ai toujours raison. Hein. Mais est-ce que tu as toujours raison? La raison ne te donne pas le droit de parler à l'autre quand même mal prend. Est-ce que tu t'es rempli du Saint-Esprit quand tu parlais à ton frère, quand tu reprenais ton frère? Est-ce que tu avais un équilibre entre la vérité et la grâce? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas interdit de se dire la vérité. Mais la vérité doit se dire avec la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de faire, la parole de Dieu. Terminé par une promesse. La belle promesse, elle est là. Je ne sais pas agir avec sagesse, je n'arrive pas. Prie, prends le temps de prier. Dieu pourvoit tout. Hein. Voici la promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, bien, mais, hein, qui la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes amis, nous faisons tous des maladresses. Nous avons besoin de demander la sagesse divine pour agir avec sagesse, avec vérité et avec amour. Et Dieu nous la donne si on la demande, cette sagesse divine, avec sincérité. Il ne s'agit pas d'une sagesse comme j'étais en Afrique, quand je voyais la barbe blanche, les cheveux blancs, j'ai dit c'est un homme sage. Faux. Ça, c'est la sagesse des apparences de nous, la sagesse divine que Dieu nous donne pour agir dans sa volonté et selon sa justice. Pour conclure, nous avons vu que la crainte de Dieu, c'est une attitude de respect vis-à-vis de Dieu et aussi de notre amour pour Dieu en nous détournant du mal et en faisant le bien autour de nous. Je suis conscient qu'il n'y a pas de recette magique comme dans la pâtisserie ou dans la cuisine. La crainte de Dieu n'est pas une option, mais c'est une attitude à laquelle nous devons aspirer. Nous devons désirer cela. Et la solution, c'est la parole de Dieu. C'est en plongeant notre regard dans la parole de Dieu que Dieu va nous montrer des choses à corriger dans notre vie, que le Saint-Esprit va nous permettre de vivre des vies qui glorifient Dieu. Je vais prier. Éternel notre Dieu, Père Céleste, nous confessons toutes les fois que nous avons agi comme des insensés. Nous bénissons ton nom parce que tu fais preuve à notre égard de patience. Nous te remercions également parce que quand nous venons à toi, tu nous remplis de ta sagesse divine, Seigneur. Nous te prions afin que tu nous donnes des cœurs remplis d'humilité, purifiés, sanctifie nos pensées, Seigneur, et garde-nous d'agir selon les dictats de ce monde, mais renouvelle notre intelligence et remplis-nous de ta présence chaque jour, afin que nous puissions marcher dans une crainte respectueuse de ton Saint-Nom. Afin que nos vies te glorifient et te rendent gloire, Seigneur. Aide-nous à préserver l'unité de ton corps, qui est l'Église, Seigneur. Aide-nous à vivre des relations saines entre frères et sœurs. Et aide-nous vraiment à avoir cette attitude de crainte respectueuse de ton Saint-Nom. Continue à marcher, à transformer nos vies, Seigneur, afin que nous puissions te rendre gloire au quotidien dans nos vies, là où tu nous places. Et continue à bâtir ton Église, afin que ton Église puisse vivre dans la sanctification et puisse rayonner pour toi, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen.